Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Bonjour Alexandre, bonjour Geoffrey.
Salut.
Salut.
Et oui, pour cette seconde Réu autour de la question « Est-ce qu'il y a trop de films et trop de séries ?», on va se concentrer sur l'impact que cette interrogation a sur notre boulot en tant que rédaction à écran large. Donc bien sûr, il fallait que tu sois là, Geoffrey, en tant que rédac-chef de la bande de nerds que nous sommes tous. Et puis on le dit pas assez, mais Alex est l'un des doyens de cette rédaction, donc il a pas mal d'anecdotes à ce sujet. Donc maintenant que je suis entouré des darons de la rédac, explorons de nouveau cette...
Surtout Alexandre.
Darons de la rédac, surtout Alexandre. Explorons de nouveau cette notion de surcharge informationnelle, cette sensation d'une surstimulation de nos sens, de notre mémoire et de notre concentration par les médias, qui engendre chez certains de la fatigue et même du stress. Et on sait qu'on est tous de gros stressés à écran large. On l'emploie généralement pour parler de l'actu, ce terme-là, surtout à l'heure d'Internet et des chaînes d'infos. Mais la culture me semble concernée par le problème, alors qu'on est toujours plus assailli par des films, des séries, des jeux vidéo. Et forcément, bah, ça impacte le métier de critique. Donc la dernière fois, on parlait déjà de biais cognitif. Mais est-ce que à écran large, vous sentez justement au fil des années que la situation elle a un peu évolué ?
Oui. Non, mais je me souviens de la réunion qu'on a eue à Alexandre à l'époque. Il était là, puisqu'il est daron comme moi, où on parlait de Netflix qui venait d'arriver. On se disait, tiens, Netflix, tout le monde commence à en parler. Est-ce qu'il faudrait pas créer un onglet spécial sur le site et tout?
Oh là là.
Et qu'est-ce qu'on était naïfs. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu, régulièrement, les gens nous disent, pourquoi vous parlez pas de tel film, de telle série? Et j'ai envie de pleurer et de dire, mais en fait, on n'a pas le temps, quoi. Parce qu'à une époque, on n'avait déjà pas le temps. Écran large n'a jamais traité, même avant que j'arrive, de tous les films qui sortent au cinéma. Maintenant, il faudrait parler de tous les films qui sortent au cinéma toujours, mais aussi des films qui sortent en SVOD, des films qui sortent en VOD, des séries. En plus, on peut parler jeux vidéo, comics et tout ça. Donc, en fait, c'est infernal, c'est pas possible. Quand tu comptes le temps qu'il faut pour regarder une série, et en plus après pour réfléchir, qu'il faut dormir un peu un moment.
Ouais.
Donc oui, les choses ont changé, c'est de pire en pire et je vais pas bien.
Parce que les gens parlent déjà quand même, se plaignaient déjà avant du fait qu'on est le pays au monde où il y a le plus de sorties hebdomadaires au cinéma. Donc il y a a priori souvent quoi, une dizaine de sorties sans compter les rétros ou des trucs comme ça. Et les films vraiment très obscurs, donc effectivement on n'a pas le temps de tout traiter. Mais en plus, effectivement, maintenant, t'as tout le reste, donc les plateformes, la VOD qui effectivement représente déjà un marché à lui tout seul, et par-dessus le streaming et plein d'autres choses. Donc, est-ce que ça a changé tout ça ?
Ouais, avec Geoffrey, on a vécu à peu près l'arrivée. Alors pas l'arrivée de Netflix parce que moi j'étais pas encore là, mais l'arrivée où Netflix a commencé à vraiment exploser sur les attentes des gens. Pour la raison pour laquelle on a créé certains papiers spécifiques qu'on n'aurait jamais fait avant, notamment de résumer en quelques films, quelques séries les nouvelles, les films ou séries qui arrivent dans le catalogue de Netflix la semaine en question, etc.
C'était ton idée ça d'ailleurs, non? À l'époque,
Geneviac. je suis pas sûr que ce soit mon idée, mais bon, en tout cas, c'est moi qui l'ai plus ou moins géré.
Ton idée, voilà.
Mais en tout cas, c'est au-delà du fait que ce soit mon idée ou non, mais on a créé des plus ou moins des postes spécifiques pour gérer ce genre. Moi, j'ai été plus ou moins quand ça a commencé à vraiment devenir quelque chose d'important Netflix vis-à-vis de la consommation des gens ou juste de l'attente des gens vis-à-vis de ce qu'on pouvait écrire comme critique. On s'est dit, Alexandre, vas-y, toi, t'es chargé Netflix, donc il faut que tu regardes ce qui sort. Tiens, est-ce que ce film ou cette série, elle peut pas être intéressante? Et il faut du coup qu'on s'y attelle, il faut pas qu'on s'y attelle, on fait des choix, on se les propose, etc. Mais il fallait que quelqu'un suive, au-delà de suivre l'actualité hebdomadaire du cinéma, il y a ces films qui sortent là ce mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il fallait suivre qu'est-ce qui sort sur Netflix ce mois-ci, cette semaine-ci, etc. Ce qui rajoutait une forme de travail, mais ça a beaucoup du coup changé. Puis après, ça a explosé encore plus maintenant qu'il y a d'autres plateformes. Amazon, parce que quand il y a eu Netflix, quand il y avait Netflix, bah Amazon, ça existait déjà à l'époque de Netflix. Mais en vérité, c'était pas. Enfin, moi, je me souviens, même moi, quand je me suis pris le Amazon Premium, je savais même pas que j'avais Prime Video à l'époque. Donc avec. Mais du coup, les gens ont de plus en plus découvert qu'ils l'avaient, et puis après Amazon s'est dit tiens Netflix c'est intéressant ce qu'ils font, on va créer beaucoup plus de séries originales, etc. Et pareil pour Disney+ qui a ensuite explosé et d'autres plateformes qui se sont créées, et donc ben ça rajoute des éléments qu'il faut suivre de près.
Ouais. Ça, à une époque on loupait déjà plein de films au cinéma, ouais. On était triste. Après on a loupé plein de trucs sur Netflix. Maintenant on loupe plein de séries et de films super sur Apple, sur Amazon, sur Paramount+, sur Kibi. Ah non, Kibi c'est bon, c'est mort. Non mais c'est vrai que maintenant en fait c'est un peu désespérant de te dire je peux pas réellement être curieux partout parce que mon radar est pas assez grand, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez d'attention. Donc ouais, de plus en plus on vit au quotidien avec la tristesse de passer à côté de plein d'œuvres.
Et les plateformes en jouent d'ailleurs, parce que bah, moi je me souviens, c'était quand même un des grands moments sur une de mes premières années ici, du fameux duel Seigneur des Anneaux House of the Dragon, où tu fais bon, bah déjà
on
nous,
s'en souvient tous.
Entre nous, fallait qu'on se sépare en fait. Ouais. Enfin, c'était la nécessité de faire deux groupes qui gèrent Game of Thrones au quotidien et qui gèrent le Seigneur des Anneaux. Et c'était la raison. Après, nous, derrière, on avait le droit de se dire, bon, bah, moi, par exemple, je rattrapais le Seigneur des Anneaux plus tardivement, en me disant, bon, bah, House of the Dragon, je suis à fond, je suis dessus toute la semaine. Mais, bon, le week-end, je me disais, bon, allez, vas-y, je rattrape quand même le Seigneur des Anneaux pour pas être largué. Mais en même temps, c'est vrai que t'as deux séries en même temps un peu similaires, en plus, qui communiquent, plus tous les autres trucs que t'as à regarder au quotidien et sur lesquels il faut
oui,
écrire.
Et surtout, c'est que, parfois, quand les gens nous disent, regardez, ou même des gens autour de nous au bureau, dont je citerai pas les noms, mais ils viennent nous dire, oh, vous avez vu ce truc-là sur Netflix, vous pourriez faire une critique. En fait, il y a le temps de regarder et de réfléchir. C'est-à-dire que quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu te dis, ok, tu le regardes de manière un peu détendue. Mais si tu dois réfléchir à des articles, à comment tu vas former ta critique, est-ce que tu l'as fait en vidéo, est-ce que tu l'as fait à l'écrit, est-ce que tu tires des dossiers thématiques, est-ce qu'il y a un truc par rapport aux adaptations, par rapport à la série originale, par rapport à la saga, par rapport aux théories des fans, par rapport aux easter eggs. Et là, en fait, tu te dis, j'ai pas juste regardé un épisode d'une série, j'ai pas juste consacré 55 minutes à ça, j'ai consacré des heures à ça. Donc oui, après, j'ai pas le temps de faire autre chose, effectivement.
Il faut avoir lu le Silmarillion pour savoir si c'est Gandalf le monsieur à la fin, donc c'est bien compliqué, effectivement. mais du coup, bah, ça amène une question plus simple, en fait, derrière tout ça. Quand nous, on est à la rédac, justement, sur quoi on décide de mettre l'accent? Autant sur la question des sorties salles, qui sont toujours dans notre planning un peu l'un des premiers trucs qui apparaît, et en même temps, bah, les grosses sorties streaming ou autres, comment on décide de traiter un sujet, comment on hiérarchise les choses, comment on fait tout ça?
Comment on fait? Dites-le moi.
Comment qu'on fait?
C'est une vraie question. C'est impossible de savoir si on va hiérarchiser correctement ou pas les choix qu'on fait. Il y a des évidences. On va pas passer à côté d'House of the Dragon et on va pas passer à côté du Seigneur des Anneaux parce que c'est des cibles qui sont extrêmement importantes pour écran large, par exemple. Mais on peut forcément passer à côté de certains phénomènes. Et je me souviens que quand Netflix, du coup, que ça commençait à exploser et qu'il y a eu la Casa de Papel qui a débarqué. La Casa de Papel, on n'avait pas du tout prévu de s'en occuper. Ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux, mais c'était sorti en Espagne en avance, etc. Il y avait eu une diffusion que les gens avaient plus ou moins regardé illégalement, etc. Et quand c'est arrivé sur Netflix, on s'est pas dit que c'était majeur de s'en occuper tout de suite.
Ouais.
Mais comme c'est devenu un buzz monstrueux au bout d'une semaine, une semaine et demie, et qu'on en a parlé en réunion et qu'on s'est dit du coup on s'occupe pas de la Casa de Papel, et qu'on est personne n'a trop envie de regarder ça. Et en plus non, on s'était pas dit que c'était important, et du coup on passait à côté du phénomène. Au final on l'a fait, enfin je l'ai fait, et
merci Alexandre.
Je l'ai fait, et du coup après on s'est dit il faut pas qu'on passe à côté de ça. Et puis il y en a d'autres qu'on a raté, qu'on a manqué par manque de temps, parce qu'il y en a de plus en plus. Avant, il y avait la Casa de Papel à s'occuper, et puis pendant deux semaines, il n'y avait plus rien.
Oui.
Maintenant, c'est un peu, il y a la Casa de Papel, et en même temps, il y a cette série qui sort sur Disney+, il y a cette série qui sort machin. Et donc, hiérarchiser, c'est en fonction qu'est-ce qui est vraiment attendu par le public, par notre lectorat, j'ai envie de dire. Ça compte énormément, évidemment, sur nos choix, mais aussi sur nos envies, malgré tout. On est quand même, ça reste un métier passion, comme on peut dire. C'est une passion qui prend beaucoup de temps sur la vie personnelle, au-delà du professionnel, mais de facto, on est obligé de faire un peu des choix sur ce qu'on a envie de regarder. On va pas forcément tout le temps s'obliger à regarder une série parce que elle fonctionne. On essaie de le faire au mieux, mais en vérité, c'est impossible.
Non, mais c'est ça, en fait, ça repose vraiment sur deux facteurs. C'est le facteur chance et flair au doigt mouillé hein, clairement et le facteur qui a envie et qui a le temps. Donc comme tu dis Alex, il y a des évidences, donc il y a chaque semaine il y a des choses, on sait que c'est des monuments ou des énormes évidences ou des trucs incontournables, donc évidemment qu'on les traite et tout le monde nous attend là-dessus, et nous la plupart du temps d'ailleurs on y va avec envie, c'est pas comme si on est à la recul, on sait que ça nous intéresse. Et si on est sur écran large, c'est qu'on aime la pop culture, donc on va voir un film de super-héros et un blockbuster avec plaisir a priori. Et à côté de ça, bah malheureusement, je dis malheureusement parce que bah malheureusement, ça repose sur notre envie, notre temps perso. Donc on va se dire ok, ça, en fait, chaque semaine en réunion, on se dit ça serait intéressant qu'on le fasse. Ça aussi. Non, ça serait vachement bien. Et parfois on se dit un mois à l'avance, ça serait vachement bien. On est tous d'accord, ça serait vachement bien. Mais le problème, c'est que ça ne repose pas que sur le flair, en fait, parce qu'on est une équipe avec des ressources limitées, parce que il y a tout un tas de choses qu'on doit gérer. On fait des vidéos, peut-être qu'un jour on fera un podcast. Donc imaginez la vie infernale que ça va être. Mais ce qui est sûr, c'est que ça repose trop sur notre bon vouloir et notre énergie. Et en fait, il suffit qu'on soit 3-4 dans l'équipe à être fatigué au même moment pour qu'un truc qui avait l'air vachement intéressant passe et qu'on passe à côté, pour que après des mois par la suite, on nous dise bah c'est dommage, vous êtes passé à côté de ça, ou que nous à la fin de l'année, on se dise le bilan, ah on est passé à côté de ça, bah oui, en fait c'est une semaine où j'avais la flemme. Ce soir-là, j'avais envie de pas travailler en fait.
Bah ouais, c'est ça.
Oui, et puis des fois, c'est compliqué de savoir. T'as des rouleaux compresseurs marketing qui te font dire que le film ou la série va être énorme, donc tu te poses pas trop la question. Mais par exemple, avec Netflix, t'as régulièrement, tu parlais de La Casa des Papel, mais je pense moi à Bridgerton, où je me souviens, j'étais en stage au moment où la saison 1 sortait, et où bah il y avait pas eu trop de réactions, parce que certes, c'était Shonda Rhimes, il y avait une certaine attente, parce que les bouquins avaient eu un certain succès, mais auprès d'une niche à l'époque de fans quand même. Et le truc a explosé d'un coup. Alors certains s'y attendaient, mais pas tant que ça. Ouais. Ils n'avaient pas tant bourré la com que ça chez Netflix par rapport à un One Piece ou des très grosses séries récentes, ou même plus récemment The Night Agent par exemple. On a rattrapé en cours de route, mais on est vraiment passé à côté quoi.
Moi je me souviens qu'à l'époque de la saison 1 de Stranger Things, quand elle est arrivée, tiens Alex, il s'en souvient aussi.
Alors moi j'étais pas encore là, mais on en a beaucoup discuté entre nous.
Parce que je me souviens qu'à l'époque évidemment personne savait que ce truc allait arriver, mais je pense qu'en regardant la filmo de Winona Ryder à l'époque, j'ai vu que cette série arrivait, j'ai vu le pitch qui avait l'air marrant, et du coup le truc m'intéressait, mais sans du tout me douter que ça allait être important. Du coup j'ai chopé les screeners, on a écrit dessus, mais c'était avant le phénomène, donc en fait on l'a bien géré, dans le bon timing. Parce que sinon on aurait pu se dire que c'était pas une énorme sortie, que c'était pas si important. À l'époque personne n'attendait ça au tournant, et il se trouve que on a réussi à le gérer plutôt bien, avec une critique sortie en temps et en heure. Mais pourquoi? Parce que le hasard total de tomber sur le pitch, de tomber sur la filmo et tout ça. Donc c'est un peu chiant que ça repose autant sur le simple hasard de quelqu'un qui un jour va aller sur IMDb, sur Wikipédia ou sur un article d'un média américain, se dire « Toi, ça a l'air cool ce truc-là ». Et je sais pas combien d'années après, 10 ans après, c'est un phénomène hallucinant. C'était quand?
C'était 2016.
Ouais. Moi, c'était encore vraiment les débuts de Netflix en plus. Ouais. Hein. Enfin, moi, je savais qu'à l'époque, je regardais Netflix plutôt a posteriori, quand des gens me prêtaient leur compte et que je regardais surtout Daredevil et les trucs qui venaient de débarquer quand j'étais encore pas mal chez Marvel. Et tu voyais Stranger Things débarquer et tout le monde en parle d'un coup. Tu fais bon, moi, je vais rattraper. Mais je me souviens d'être passé vraiment à côté du truc sur le moment. J'ai pris le train en marche. Quoi.
Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu, mais Stranger Things, j'avoue, on en a beaucoup discuté parce qu'il y a eu un peu il y a eu un changement un peu, je trouve, chez Netflix. C'est que maintenant, ils utilisent quand même énormément leurs séries, beaucoup en avance, etc. Alors, pas forcément toutes les grosses séries qui vont devenir des phénomènes. Squid Game, par exemple, moi, j'en avais jamais entendu parler avant que ça devienne un phénomène, hein. Donc,
j'essaie de me souvenir, mais je suis même pas sûr non plus. Je l'ai rattrapé tellement en retard, en plus de trucs.
C'est devenu un phénomène, après la sortie. À partir du moment où c'est sorti. Et c'est vraiment, ça a explosé, mais jamais on se serait dit, il faut absolument faire cette série. Jamais on se serait dit ça va devenir la série la plus vue de tous les temps sur Netflix quoi. Et du coup maintenant qu'il y a beaucoup de promos, enfin avant il y avait une promo, c'était un mois avant ils commençaient à donner, enfin il y avait potentiellement des trucs qui arrivaient depuis plus longtemps, depuis un an, depuis etc. Mais un mois avant t'avais une bande annonce, mais tu ne savais pas si ce serait un phénomène. Maintenant t'as des bandes annonces régulièrement, t'as beaucoup d'annonces simplement de casting, de le fait qu'ils adaptent beaucoup d'œuvres existantes, qui sont déjà existantes. Exactement.
Je pense qu'eux, ils sont rentrés dans une logique de hiérarchie aussi. Ils savent qu'il y a des produits sur lesquels ils vont vachement miser, qu'ils appellent des produits, des contenus. Et donc, ils font une énorme promo. Et c'est vrai que des semaines, des mois à l'avance, comme des blockbusters, en fait, t'as toutes les annonces maintenant qui sont timées avec des grosses équipes de production, quelqu'un qui est connu au casting.
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds.
Ouais, non, mais ça, tous ces trucs-là, maintenant, tu sais qu'ils arrivent parce que t'as autant d'informations sur le casting et sur les budgets et sur les salaires mirobolants que, en fait, sur ce que ça va raconter. Globalement, il y a moins d'informations sur ce que ça racontait vu les pitchs de merde, mais c'est pour ça aussi peut-être.
Parce que du coup, ça implique pas aussi une problématique nous dans notre boulot, qui est que à chercher cette hiérarchie-là, est-ce que tout le monde finit pas par faire un peu la même chose et être contraint à une sorte de moule où on est un peu dépendant aussi de finalement des chiffres et donc de ce qui marche et donc de la loi de Google et compagnie. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas tous à un peu traiter les mêmes trucs?
Ce qui est sûr, c'est que comme on se disait, à chaque semaine, chaque réunion, chaque jour, chaque seconde, on se dit quels sont les trucs importants qu'on doit pas louper. On l'a toujours fait, mais en fait, la seule différence qui est mineure, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de trucs incontournables. En fait, en théorie, quand tu regardes le planning de l'année, tu te dis, sauf certains mois un peu mous, le mois de janvier est un petit peu tranquille côté cinéma, donc on se dit qu'on va respirer, en fait, c'est pas le cas, mais on se dit que parfois, il y a des périodes un petit peu normales, creuses. Mais sinon, quand tu regardes toute l'année, que tu la mets à plat, il y a tout le temps plein d'événements. Donc en fait, si déjà on traite dignement les événements, ça nous pompe déjà tellement de temps qu'il y a de moins en moins de temps pour se dire « Ok, je respire, qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui serait vraiment stimulant ?» Et ouais. C'est pour ça qu'on en est là.
Ouais, non mais c'est vrai. On est, et je sais pas s'il y a une forme de moule, mais de facto, il y a une forme de moule. Quand tu vois ce que la plupart des médias traitent, ça reste les gros événements. Et nous aussi, on est obligés de passer sur les gros événements. Quand on passe longtemps sur les gros événements, on nous reproche de passer trop longtemps sur les gros événements. Mais en même temps, c'est un gros événement. Donc, on est obligé de le traiter de manière importante. Et quand on ne traite pas des gros événements, on nous dit, qu'est-ce que vous faites? Donc, de facto, il faut trouver un équilibre, certes. Mais on ne peut pas donner plus d'importance à un petit film qu'à un gros film. Enfin, c'est pas une question de petit film ou de gros film, je pense. Mais c'est difficile. On ne peut pas mettre autant de temps sur un film qui va être... on est dépendant tout simplement du nombre de clics ou de ce genre de choses. Et on prenait, je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça, mais on ne peut pas parler autant, même si on le voulait, d'un film comme, Le Règne Animal ou Avengers Endgame. Ça n'a aucun sens. Avengers Endgame, je peux faire 15 papiers par semaine, il y aura toujours des trucs à dire. Alors que Le Règne Animal...
À cette période-là, à partir du moment où le film était sorti, les Américains ne communiquaient plus que là-dessus. Enfin, personne, de toute façon, aucun distributeur ne voulait parler de son film pendant qu'il y avait le raz-de-marée, en fait. Donc, tu n'avais que ça à te mettre sous la dent à ce moment-là.
Mais au-delà de ça, en fait, c'est que surtout, même si les Américains en parlent ou n'en parlent pas, c'est que notre lectorat attendait des informations sur ce film et que ça soit n'importe quelle information. Alors que si on leur fait 5 informations sur les films, même s'ils les aiment bien, genre Le Règne Animal, on nous a reproché de ne pas en parler assez, mais qu'est-ce que je vais dire sur Le Règne Animal? Je vais parler de quoi? Du film? Je vais faire quoi? Des news sur le casting?
De la promo de, en fait, il n'y a pas 5 bandes annonces, il n'y a pas beaucoup d'annonces de casting. En fait, on nous donne peu de matière pour faire la promo. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à la sortie. On peut parler du film et on pourrait faire 15 articles sur le film lui-même. Mais c'est vrai que c'est un autre timing. Là, on parle du timing avant la sortie. Comment tu couvres la promo? Comment tu couvres le marketing? Comment tu suscites l'attente, la curiosité et comment tu analyses l'actualité à venir, quoi?
Et surtout, mais même si on faisait 15 papiers sur Le Règne Animal, post-sortie, c'est...
Ce serait probablement très décevant niveau chiffre.
Très décevant, exactement, parce que les gens ne veulent pas, contrairement à ce qu'ils nous disent, lire 15 papiers sur Le Règne Animal.
En fait,
ce
le truc
pas possible.
Qui est un peu compliqué, c'est que en théorie, le bon équilibre d'un site comme Écran Large, c'est que, on va dire 50-50. 50% du temps, on va le passer à traiter les événements qui sont majeurs et incontournables, et grâce à ça, grâce à ce succès, grâce à ce socle, on peut parler de tout un tas d'autres choses. Ça, c'est la théorie. Sauf qu'en fait, la part qui est maintenant consacrée aux événements, elle est de plus en plus énorme. Donc en fait, il faut aussi qu'on hiérarchise les événements parce qu'on peut pas tous les traiter. Donc des gens doivent faire un travail, une réflexion avec... On sait des erreurs, il y a des trucs à côté desquels on passe. Et après ça, avec le temps qui nous reste et qui est de plus en plus réduit et parfois inexistant selon les périodes, on se retrouve à se dire... avec le reste, avec la curiosité, avec juste on avance, on n'a pas de hier, on regarde juste qu'est-ce qui nous intéresse, quels sont les films dont le pitch nous donne envie, quels sont les trucs sortis de nulle part, on regarde sur Allociné les trucs qui arrivent, on regarde sur n'importe quel festival du monde entier, on se dit oh, j'ai envie de couvrir ça, quel temps il me reste? Et après on arrive au côté, si j'ai pas le temps de travail, je le fais sur mon temps perso. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est sain de le faire? Donc je pense qu'en fait cet équilibre est de plus en plus cassé, parce qu'en fait, la part consacrée aux événements est de plus en plus énorme et de plus en plus compliquée à gérer. Parce qu'on peut pas tous les traiter. Et du coup, on se retrouve déjà à avoir beaucoup de réflexions sur, mais qu'est-ce qu'on traite? Il y a plein d'événements. Qu'est-ce qu'on traite? Comment on les traite? Comment on les traite de manière intéressante pour Google et pour les lecteurs et pour nous? Et c'est là qu'en fait, l'équilibre est de plus en plus difficile.
Oui, parce que ça, les mauvaises langues diraient que, a priori, le rôle premier de la critique, c'est celui-là. C'est de conseiller ce que d'autres ne voient peut-être pas. C'est plus d'aller justement chercher, d'aller repérer des petits films et de dire, en fait, ça, c'est intéressant, allez le voir. Et j'ai l'impression effectivement que même nous, des fois dans notre énergie, c'est un peu cassé parce qu'on aurait envie de dire tiens, j'aimerais prendre d'ailleurs plus de temps pour écrire ce texte sur ce film qui me plaît beaucoup. et qui est peut-être un peu compliqué à analyser, sur lequel je veux passer du temps. Et en même temps, bah, il y a The Marvels ou je sais pas quoi qui sort en face, et il faut prendre du temps pour ce film-là. Est-ce que ça casse pas aussi un petit peu la place du critique de cinéma, finalement, dans cette espèce de surabondance constamment de contenu, pour reprendre le terme?
Bah, je pense qu'on est de plus en plus dépendant de, bah, tout simplement des chiffres qu'on fait sur le site, hein, donc ce qui nous rapporte de l'argent, tout simplement. Et ce qui nous rapporte de l'argent, bah, ce sont les gros événements, donc on est obligé d'y consacrer une grande partie. Mais c'est marrant parce que nous, on a essayé on essaye globalement de conseiller tous les films qu'on aime, les plus petits, etc. Et on a fait pendant un ou deux ans quasiment un papier hebdomadaire pour parce qu'on avait pas, on s'était dit, quand on n'a pas le temps d'écrire sur un film, c'est un peu dommage parce qu'on a envie de le soutenir, notamment des petits films indépendants ou des petits films d'auteurs vraiment pas du tout attendus par le grand public et qu'on avait beaucoup aimé, on voulait les soutenir, on faisait un papier hebdomadaire avec les sorties de la semaine. Ouais. Et ben comme ça on peut écrire un petit peu sur le film, montrer qu'on l'aime, et du coup les gens, s'ils le lisent, ils peuvent on les conseille tout simplement d'aller le voir parce que c'est vraiment intéressant et qu'on l'a beaucoup aimé, qu'on veut le supporter. Mais ce papier, il ne marchait pas une seule seconde. Les gens s'en battaient les couilles, en fait. Donc, c'est terrifiant parce que nous, on a envie de les soutenir, ces petits films, de conseiller des choses qui vont passer dans moins d'une centaine de salles et que les gens vont pas forcément privilégier dans leur sortie cinéma parce que, il n'y a pas eu de promo. Donc, en fait, tout simplement, les gens ne connaissent pas l'identité du film. Et que, en plus, il faut, pour le découvrir potentiellement, notamment pour les personnes qui habitent pas à Paris, faire des kilomètres pour aller voir dans un certain cinéma, etc. Et ça peut être chiant, mais si on leur donne envie, pourquoi pas aller les conseiller. Et nous, on le fait, on essaye de le faire, notamment quand on va à Cannes, en regardant pas mal de films, etc. C'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas du tout envie de conseiller d'aller voir le dernier Marvel. Les gens, s'ils iront de toute façon sans que je leur conseille ou pas. Donc, que je leur dise que c'est bien ou que c'est de la merde, ils iront. Donc, c'est tellement des gros films attendus que... Non mais c'est vrai, tu vois. Et donc c'est ça qui est frustrant, parce que il y a des films qu'on a vraiment envie de supporter, mais notre dépendance à ce que ça va nous générer comme argent, malheureusement, pour pouvoir écrire sur des petits films, il faut qu'on gagne notre vie, hein, sinon il y a plus de site, hein, donc de facto on est obligé de faire des sacrifices. Et en même temps, quand on le fait, finalement ça n'intéresse pas totalement les gens, pas toujours. Parfois il y a des bonnes surprises évidemment, mais c'est plus rare que réel, quoi.
Et pour sortir d'écran large, enfin de l'économie d'écran large en elle-même, je trouve qu'en tant que critique, en général, tu vois, en oubliant les conditions de notre site en tant que tel, moi, face à toute cette marée de films et de séries qui débarquent toutes les semaines, moi, j'ai aussi ce sentiment-là de comment tu conseilles certaines œuvres et comment surtout tu perçois l'émergence notamment d'auteurs, en fait. Moi, c'est un peu un des trucs qui me perturbe le plus, c'est que je me dis, il y avait quand même peut-être... C'est peut-être mon côté vieux con et d'une période que j'ai moi-même pas connue, mais d'une période où quand les cahiers voulaient défendre un auteur émergent, qu'il l'avait repéré et qu'il défendait de film, c'était possible de le faire, en fait, tu vois, parce qu'il y avait pas non plus 10 000 autres trucs à côté. Là, quand tu veux repérer de nationalités très diverses, des auteurs qui débarquent, ou des fois t'as eu une bonne surprise à Cannes sur un premier film, t'as vu tel truc qui émerge, ou justement tu reçois un carton en te disant « Ah tiens, c'est le deuxième film de tel réel que j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé son premier, j'ai envie de soutenir ». Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué de percevoir quel va être un auteur intéressant à suivre. Moi, je cite souvent cet exemple-là parce que c'est ma plus grande déception, je pense, de ces dernières années, mais c'était Destin Daniel Cretton, dont j'adore le premier film States of Grace. Et je me disais, oh là, lui, j'ai trop envie de voir ce qu'il va faire sur la suite. Et puis ces jeunes acteurs, là, il y a Brie Larson, tout ça, je les connais pas. Ils vont avoir une carrière de fou. Alors,
Flash Forward, 10 ans après.
Le mec fait Shang-Chi et tu fais, merde. J'ai pas mis
sur
le
fait le
bon
Château de Verre aussi, entre temps que Brie Larson.
Le Château de Verre,
qui était
vraiment
pas bien. Hein.
Mais tu vois, le Château de Verre, typiquement, j'étais le premier dans la salle au 9h des Halles le jour de sa sortie, parce que je me dis, je veux voir le film.
Premier déçu.
Premier déçu. Là, j'étais, et on n'était pas beaucoup dans la salle, hein, donc on se doutait que ça allait pas être génial. En même temps, c'est aussi notre rôle, tu vois, un peu de miser justement sur des chevaux, entre guillemets. Il y en a eu, parce que je pense que, tu vois, en 2022, moi, pour moi, qui a été une année exceptionnelle, on a eu Saïd Roustaé avec Leïla et ses frères, et on avait déjà beaucoup aimé La Loi de Téhéran. Moi, je sais qu'il y a Rodrigo Sorogoyen avec Asbestas, mais tous ses films d'avant, moi, déjà, je l'ai surkiffé. Et donc, typiquement, Asbestas, on a reçu le carton, je me suis inscrit direct, j'ai fait « je dois voir ce film ». Mais je trouve que c'est de plus en plus compliqué, tu vois. Typiquement, Sorogoyen, avant ça, avait fait une série qui, en France, était sortie sur Canal, Antidisturbios, ce qui est incroyable d'ailleurs. Mais justement, tu vois, ces gens-là ont parfois des choix de carrière et des opportunités qui sont tellement éclatées dans tous les sens, que c'est compliqué après de recréer une dynamique déjà de leur filmographie, de créer une cohérence et toi après d'arriver à tout regarder et d'arriver à retrouver un équilibre en fait.
Attends, j'ai envie de dire plein de trucs parce que là plusieurs fois je me suis arrêté pendant que vous parliez, je me suis dit il faut que je prenne des notes. Le premier truc c'est que déjà je pense que pour moi il y a pas que le rôle de recommandation et de faire découvrir des trucs en tant que critique. Je trouve qu'une grosse part de notre job c'est aussi d'analyser et décrypter l'actualité qui est incontournable. Et moi, je prends un vrai plaisir à me dire, ok, ce truc-là, tout le monde en parle. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que je trouve d'intéressant là-dedans? Donc, il y a le côté dénicheur, détective de petits films en festival ou les trucs qui passent un peu inaperçus en salle. Mais je trouve ça aussi extrêmement excitant de te dire, ce gros blockbuster arrive. Je l'ai trouvé très moyen. Les gens adorent. Qu'est-ce que je peux en tirer d'intéressant? C'est quoi le contexte? D'où est-ce qu'il vient? Ou alors, ce blockbuster est arrivé. Les gens l'aiment pas. Il s'est planté. Mais pourtant, c'est trop bien. Et pourquoi il s'est planté par rapport à un autre? Donc je trouve qu'il y a vraiment aussi pour nous ce côté, je suis pas là pour vous dire quoi voir, mais plutôt on réfléchit ensemble. T'as aimé le film, je l'ai pas aimé, moi je l'ai adoré, tu l'as détesté, tu t'en fous, moi aussi je m'en fous, mais pourquoi la planète entière en a quelque chose à faire? Et chaque année, il y a plein d'exemples hyper intéressants de ce côté-là. Et l'autre truc que tu disais par rapport à Alexandre, l'article qu'on faisait chaque semaine pour conseiller les films aux gens, en fait c'est ça aussi qu'on a une gymnastique chaque année, c'est de se dire... On veut parler de plus de films, on n'a pas plus d'argent ni plus de gens, comment on fait? Donc on a essayé ce papier-là pendant un moment, ça marchait pas trop avec les gens, du coup on s'est dit la critique, on va refaire des critiques normales, on les fait plus courtes, ce qu'on a du mal à faire. Donc en fait on essaye tout le temps de trouver un moyen pour que ça existe. C'est toujours compliqué, mais on essaye encore aujourd'hui de faire des critiques light, de faire des trucs qui sont plus courts, qui nous prennent moins de temps, comme ça on se dit j'ai passé que 2 heures à voir le film hier soir, mais je passerai que 1h30 à faire la critique, pas du tout c'est 3 heures, mais on essaie de trouver quand même la souplesse pour couvrir un maximum de choses. Ouais. C'est jamais assez, c'est toujours très compliqué, on passe toujours à côté de plein de choses et c'est très rageant. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à supporter quand quelqu'un dans les commentaires vient de dire vous parlez de ça mais pas de ça 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 ça, et tu dis oui mais on a parlé de ça 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 dont t'as rien à foutre, mais il y a des gens qui sont contents et on peut pas parler de toutes les séries qui sortent, je t'assure on ne peut pas. Voilà.
Ouais, là où je te rejoins, c'est que même sur les très gros films, effectivement, le côté détective, moi, je prends un énorme plaisir. Enfin, de toute façon, sinon, on ferait pas ce boulot, en fait. C'est-à-dire de, quand on est contraint de parler d'un blockbuster super-héroïque, mais que, bah, tout le monde s'interroge sur, la fin programmée du genre ou d'un truc comme ça sur The Marvels ou Aquaman 2. Moi, ça m'éclate de faire une comparaison de box-office en disant, voilà, en plus, ils se positionnent ou par rapport au précédent volet ou par rapport à leur saga respective, tout ça. C'est toujours assez passionnant de décortiquer et surtout d'ailleurs de, pour nous, on a tellement de nez dedans tout le temps qu'on peut facilement recréer une chronologie d'événements que la plupart des gens n'ont pas, en fait. Donc, c'est facile de remettre les choses en place et de dire, voilà, il y a eu tel élément, tel truc. Quand on parle, je sais pas, de chronologie des médias ou d'autres éléments comme ça, c'est super intéressant, je trouve, de remettre les choses à plat et de parler de la carrière d'un film et de mettre la nuance là où, des fois, certains l'ont pas, en plus. Donc, c'est là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on garde ce plaisir-là, y compris sur ces trucs-là. Mais du coup, est-ce que le plaisir aussi de visionnage, même d'un point de vue, je dirais, enfin, autant en tant que critique, mais aussi, à la fois spectateur critique, quoi, tu vois, ce truc-là de comment on trouve encore ce plaisir-là du visionnage quand il y a trop de trucs qu'il faut regarder chez soi, surtout les films ou les séries. Est-ce qu'on l'a encore ou plus trop? Ou est-ce qu'il y a une fatigue, justement, qui est cette fameuse surcharge informationnelle? Est-ce qu'il y a une fatigue quelque part?
Moi, j'ai envie de dire que nous sommes des êtres humains comme les autres et que parfois oui, parfois non, quoi. Il y a des moments où ça va, où j'ai le temps, où j'ai l'espace dans ma tête, et des moments où j'ai la flemme. Mais de la même manière que des fois, j'ai la flemme de voir des gens, de jouer à un jeu, de lire un livre, et puis en fait, après, ça reprend. Donc, pour moi, c'est cyclique, hein. Il y a des moments, il suffit qu'il y ait un film qui me rebooste et qui me redonne envie de voir d'autres films, ou je revois un classique que j'aime et je me dis, bordel, j'ai envie de trouver le prochain truc comme ça. Souviens-toi, Geoffrey, il y a 3 ans, t'es tombé sur ce film, t'as adoré. Vas-y, c'est quoi celui de cette année, quoi? Mais ouais, c'est par à coup, quoi. Il y a des moments, la flemme, et des moments, ça revient.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, d'ailleurs, c'est une forme encore de cycle, etc. Mais parfois j'ai un peu marre du cinoche, donc je me planque dans les séries et j'en regarde 2-3, et puis au bout d'un moment j'en ai marre des séries, et donc je reviens au cinéma naturellement et je me refais plus de films, etc. Mais après il y a forcément les cycles de j'ai envie de découvrir de nouveaux films, voir des vieux films, ouais, etc. Il faut savoir jongler.
On parle pas assez de ça, le temps qu'on veut consacrer à redécouvrir ou revoir des films.
C'est difficile de, tu te dis attends, je connais très mal, je ne sais pas quel réalisateur ou réalisatrice des années 40, 50, tiens, j'aimerais bien en découvrir plus, mais en même temps, il faut que je m'assure de bien gérer la nouvelle sortie de tel ou tel film qui sort la semaine prochaine, dans 2 semaines et dans 3 semaines. Donc, il faut faire des choix, quoi, tout simplement. Et oui, c'est fatigant, c'est un peu frustrant régulièrement. Et pour dire après, on garde, enfin moi je garde quand même du plaisir, sinon bah, je pense que je ne serais plus là depuis un moment. Mais...
Oui, c'est ça. Je pense que par contre le plaisir il reste, hein, même quand on a des coups de flemme. Moi je sais que quand j'ai la flemme, ça se traduit par je vais revoir des films et des séries que je connais par cœur pour la 38e fois et réfléchir sur pourquoi c'est génial. Donc en fait ça ne me quitte pas, tu vois. C'est juste qu'il y a des moments où je me dis ah je vais découvrir des nouveaux films, je vais me faire tout Mizoguchi parce que je ne connais pas. Puis après oh, plutôt je vais revoir Southland Tales et The Box, tiens j'aime bien.
Oui, parce que c'est souvent une question qui nous est posée d'ailleurs, enfin qui est souvent posée à la critique en général, c'est est-ce que on peut entre guillemets débrancher son cerveau et regarder un film pour
il
juste
débrancher son cerveau.
Mais c'est ça, tu vois, c'est le fameux truc du on regarde que pour le plaisir. Et en fait, je pense que non. Enfin,
on
regarde
du cerveau pour le plaisir. Hein, les gens.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense que quand tu revois un truc même que t'as kiffé 10 000 fois, tu te dis ah je le revois aussi parce que tiens j'ai peut-être envie de voir pourquoi ça me plaît autant ou pourquoi sous cet angle-là j'ai envie de le remater. Et là récemment en écrivant l'article sur la musique de Star Wars 7, en fait je me suis dit j'ai envie de revoir le film en fait. Et j'ai revu le film en me disant putain peut-être que ça se trouve je vais me rendre compte que je l'aime pas autant ou que avec le temps qui passe je vois les problèmes et je les vois les problèmes, mais j'ai revu le film et j'ai fait en fait c'est quand même vachement bien, il y a plein de trucs trop cool dans ce film. Et d'ailleurs je me suis dit tiens faudrait que j'en parle à un moment donné, tu vois.
Mais tu vois c'est ça qui est génial, c'est que régulièrement tous les jours au bureau on se chambre parce que un tel ou un tel a revu un film ou un tel on se souvient qu'il a aimé Hellboy et on se dit on est au sous de sa gueule aujourd'hui ou Crazy Bear. Mais alors, en fait c'est ça qui est marrant, c'est que on se balance ça dans la gueule en mode on a un peu des goûts douteux, on a des goûts de chiottes, mais en fait on a juste des goûts normaux de bah il y a des films que t'aimes bien et tu l'analyses pas froidement en te disant est-ce que ça va rentrer dans un livre de cinéma.
Ouais.
Je te dis juste en fait j'ai pris du plaisir, j'ai trouvé ça vachement beau, triste, drôle, bah en fait c'est pour ça que ça marche. Après, il y a différents degrés d'analyse, mais si tu vois un film et que tu prends du plaisir devant, t'as pas besoin de te justifier ou de te dire dans ta tête, il y a un conflit entre mon cerveau et mon cœur. En fait, ça marche très bien. Donc pour moi, le cerveau n'est jamais débranché parce que tout le monde a un cerveau branché, même quand il dit l'avoir débranché. Et si tu vois, alors j'allais dire Transformers parce que c'est un bon exemple, mais il y a Antoine face à moi, du coup je sais pas trop, mais non, mais tu vois, si tu te dis je regarde Avengers 2 ou mauvais exemple, merde, Antoine est encore concerné, non, mais un blockbuster que je vais pas trouver un nom.
Tu penses à un blockbuster nul et malheureusement il y a Antoine en face de nous, donc pas de chance.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Non mais tu vois, un blockbuster qui est du pur divertissement, calibré pour du divertissement, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est con, que ça ne raconte rien, mais disons un truc qui est considéré comme juste du divertissement. Si tu le vois et que tu t'amuses et que pendant deux heures tu vois pas le temps passer, que tu trouves ça hyper excitant et stimulant, eh ben, en fait, ton cerveau a marché. Il t'a dit que ça marchait sur toi. Tout simplement. Et la personne à côté qui arrive en te disant, oui, mais c'est de la merde, c'est mal mis en scène, mal écrit. C'est pas qu'il est plus intelligent, qu'il a plus réfléchi. C'est juste que ça n'a pas marché sur lui. Donc, en fait, il s'en fout, donc il passe à côté. Voilà. Next. Donc, c'est pour ça que le côté, tu actives ou débranches ton cerveau devant certains films, en fait, déjà, ne le faites pas, c'est dangereux pour la santé et pour l'avenir de l'humanité, de la civilisation, je pense. Mais aussi, non, en fait, quand tu aimes un film, si un film te fait chialer ta race, c'est que ton cerveau était branché.
C'est ça, exactement.
Et t'as pas forcément besoin de faire une critique de 8000 signes sur écran large et d'avoir passé que 3 jours dessus pour te dire, en fait, j'aime vraiment le film. Non, t'as chialé, c'est qu'il y a un truc qui marche. Donc déjà, questionne-toi là-dessus.
Pourquoi Paddington 2 est un chef-d'œuvre en, un vidéo essai de 4 heures, par pitié. Ça sera un de mes prochains projets sur écran large. Mais du coup, pour revenir aussi sur un truc un peu plus large, parce qu'on parlait aussi du rapport à l'information plus généralement sur les films, sur la communication de chacun, face à cette surabondance qu'il y a, moi il y a aussi ce truc là de est-ce que finalement il y a pas aussi, c'est moins qu'il y a trop de films et trop de séries, qu'il y a peut-être trop d'infos autour de ces mêmes films et de ces mêmes séries. Et pour ça, comme on parle vraiment de cette idée de la surcharge informationnelle qui est un concept qui est plutôt utilisé pour parler des entreprises, du domaine professionnel, notamment pour faire des rues comme celle-là d'ailleurs, hein, pour canaliser et hiérarchiser les informations. Ce qui est marrant, c'est que si on en parle vraiment de manière très récente avec les chaînes d'infos, avec les réseaux sociaux et des trucs comme ça, en fait, Edgar Morin en parlait dès les années 80, et lui, il parlait d'un terme que j'aime beaucoup, qui est de nuage informationnel. Et donc, pour le citer, il disait « Il est étonnant que l'on puisse déplorer une surabondance d'informations, et pourtant l'excès étouffe l'information quand nous sommes soumis au déferlement ininterrompu d'événements sur lesquels on ne peut méditer parce qu'ils sont aussitôt chassés par d'autres événements. Ainsi, au lieu de voir, de percevoir les contours, les arêtes de ce qu'apportent les phénomènes, nous sommes comme aveuglés par un nuage informationnel. » Est-ce que du coup, pour nous, en tant que critiques, ça apporte aussi un autre problème? Parce que évidemment, il y a des mouvements de cinéma, on en parle souvent, et parfois c'est dur de les définir à l'instant T où ils arrivent, c'est souvent a posteriori, mais est-ce que du coup c'est plus difficile maintenant face à la salle, au streaming, à plein d'auteurs qui émergent dans tous les coins, est-ce que c'est compliqué de percevoir des tendances dans le milieu qu'est le nôtre?
Mais déjà, avant que de répondre à ça, je me disais, en t'écoutant citer Monsieur Morin, je me disais qu'on avait un temps privilégié comme critique, c'est que le temps qu'on consacre à la critique est un temps justement où on se force à réfléchir intensément sur un film. Et je pense notamment à ta critique de Pauvre Créature, Alex, où t'as mis 4,5, et peut-être qu'à la sortie du film, t'étais sur 4.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, régulièrement, on se retrouve devant des films qu'on a beaucoup aimés, on écrit, et en fait, on a tendance à retirer ou rajouter des étoiles, parfois à l'excès, en se disant, en fait, j'ai passé 1 heure, 2 heures, 3 heures à réfléchir au film, à repenser à chaque séquence, à vraiment me dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, qu'est-ce qui se passe dedans, est-ce qu'il s'est passé un truc qui vraiment dépasse le film et me dépasse moi. Et donc c'est là qu'on se met dans une bulle et que ça nous force, et tant mieux, à réfléchir beaucoup plus et à faire un peu lutter contre ce côté le nuage est chassé par la prochaine information. Donc c'est peut-être l'espace un petit peu précieux que nous on a, c'est de se dire, pour écrire un joli papier de, je sais pas, 10 000 ou 5 000 signes, en fait, il faut du temps et je dois me couper un peu du reste. Alors, il y a toujours des gens, des trucs qui arrivent pour nous couper, mais c'est un truc peut-être que, en tant que spectateur normal, quand je vois un film chez moi ou quand je vais au cinéma, parmi le commun des mortels, parfois, j'ai moins. Disons que je suis moins dans le cadre du travail, donc peut-être que c'est un muscle qu'on peut activer parce qu'on l'a au travail, mais c'est ça auquel ça m'a fait penser quand tu parlais. Je me dis, bah quand même, il y a ce truc un peu privilégié qu'on a, c'est oui. De se dire, il y a un moment on réfléchit, quoi. On a
que ça à faire. Je suis assez d'accord, c'est aussi pour ça que je l'ai prise, cette citation, parce que moi, elle m'évoque aussi ce pourquoi j'aime la critique et pourquoi j'y suis venu, parce que même ado, j'écrivais des trucs pourris.
On attend l'adresse de ton Skype.
Ouais, non, faut pas que ça sorte ça. Mais où. En fait, je sentais le besoin de le faire, et à l'époque, je le conscientisais pas, mais je pense parce que je le faisais pour moi, pas pour dire aux gens, allez voir ce film-là, c'est trop bien, parce que je me disais, de toute façon, j'étais lu par très peu de personnes, mais c'était pour moi le besoin de segmenter, de compartimenter, de créer d'avoir une réflexion qui était construite par moi autour d'un film, de synthétiser ce que j'avais ressenti et pensé autour
de mettre
film-là.
À plat les choses que tu ressens, trouver les mots, trouver la manière de le réfléchir pour toi et donc de le partager. Ça, c'est un truc qu'on fait pas forcément. C'est pour ça, quand même, que plein de gens aiment discuter en sortant des cinémas, qu'il y a des débats enflammés autour d'une bière sur Transformers 5, c'est bien.
Bah oui. Non, et puis du coup, tu vois, comme Alex sur Pauvre Créature, moi, je sais que la zone d'intérêt, tu vois, c'est, j'appréhende la même d'écrire dessus parce que j'y ai déjà beaucoup réfléchi, j'ai déjà fait pas mal de trucs autour, mais là, de devoir écrire dessus, devoir mettre vraiment à plat après le petit texte qu'on avait fait à Cannes, de faire une vraie critique du film. Là, tu vois, je l'appréhende. Ça fait des semaines déjà que j'y réfléchis. Je commence à, et là, ça y est, faut que je me lance, quoi. Et ça va être un sacré moment, je pense.
Après, le côté négatif de tout ça, c'est qu'effectivement, on a la tête dans le guidon. Donc, pour voir s'il y a des tendances qui se démarquent de l'industrie, c'est sûr que parfois, on en discute entre nous et je pense qu'on essaie tous régulièrement de faire un petit pas de côté et se dire, OK, en fait, on considère que ce truc-là, c'est un événement, que tout le monde sait qui c'est, que c'est vachement important, que c'est hyper compréhensible. Pas du tout. En fait, potentiellement, tous les gens s'en foutent complètement. Potentiellement, les gens rigolent si on parle de ça. Potentiellement, ils savent pas de quoi on parle. Et potentiellement, ils parlent de ce truc hyper important que nous, snobinards, on juge comme pas important. Donc oui, c'est sûr que, en ayant la tête dedans, on a nos propres codes. On a beau être plus ou moins différent dans l'équipe, on est quand même, on est dans une même équipe, sur un même média. Donc en fait, on finit par un peu retrouver les mêmes codes, même si au départ, on les avait pas. C'est sûr qu'il y a un risque de, d'avoir des œillères, quoi, des œillères socioculturelles et qui nous empêchent éventuellement de réfléchir, de prendre un peu de hauteur sur des choses. Alors, on a le bon côté de prendre la hauteur parce qu'en ayant les yeux dans l'industrie, parfois, on peut user de pédagogie pour expliquer aux gens en disant, vous avez le pouvoir, ce truc, on se fout de votre gueule, c'est pas un succès, c'est pas un échec et tout ça. Mais le mauvais côté, on a la tête dedans. Donc, pour vraiment réussir à s'en sortir, à part prendre des vacances et revenir et rigoler à la gueule de l'équipe en disant, les gars, vous êtes complètement cons, on était tous cons le mois dernier, la réalité, c'est ça, je l'ai vu en vacances. Mais ouais, sinon, ça fait partie des risques du métier, je pense.
Ouais, mais c'est marrant qu'on parle de, enfin, on parle de fait d'être déferlé dans une sorte de d'information ininterrompue et que à force devoir voir plein de choses en continu, pas sûr qu'on retienne beaucoup des choses qu'on a vues, tout simplement.
Oui, voilà.
Ça me fait énormément penser à ce qu'on vit à Cannes quand on y va.
Bah ouais.
Parce qu'on regarde énormément de films en journée. Ça peut aller jusqu'à 5 films par jour, donc globalement c'est 8h30
minimum, ouais, enfin, c'est voilà. À peu près ça, la
moyenne. Donc il faut savoir les retenir un minimum pour pouvoir écrire dessus, etc. Mais ça me fait penser un peu à ce qu'on fait pour essayer de sortir et prendre de la hauteur. Parfois on en est absolument incapable à Cannes parce qu'on est dans la frénésie,
l'énergie du truc,
la frénésie cannoise, et du coup souvent, parfois, on vous envoie des messages en mode ce film, j'aimerais bien écrire dessus, mais est-ce que vous en avez entendu parler, quoi? Est-ce que ça en parle depuis vous qui n'êtes pas à Paris, ouais. Qui vous n'êtes pas à Cannes et qui êtes à Paris? Est-ce que, je me souviens quand j'avais écrit sur France de Bruno Dumont, j'ai hésité à écrire dessus parce que j'avais pas trop aimé le film, donc c'était pas forcément très intéressant de potentiellement le détruire, mais vous m'avez dit en vrai ça parle un peu quoi de ça, donc let's go, ok, on va écrire dessus.
Colonie sur Mars, tu sais, et sur Terre que se passe-t-il?
Non mais c'est vrai que comme ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai que quand t'es à Cannes, ouais. Vraiment tu ne vois rien par Cannes, en fait. Tu ne sais pas ce qui se passe autour. Le nombre de bandes-annonces qui tombent parfois et tu te dis, j'avais pas vu qu'il y avait la nouvelle bande-annonce de Star Wars machin qui s'est sortie pendant que j'étais à Cannes. Parce qu'en fait, à Cannes,
la bande-annonce est là.
Mais c'est exactement ça, tu vois. Et c'est pour ça, je me souviens quand j'étais à Venise aussi, il y avait eu la bande-annonce de je sais plus quel film qui était sorti, mais il y avait aussi surtout eu la bande-annonce d'un petit film qui passait à Venise. Et moi, j'étais en mode, trop bien, la bande-annonce du nouveau film qui arrive à Venise dans pas longtemps. Et vous étiez en mode, non, mais surtout, il y a le gros blockbuster, machin, etc. Parce que, c'est celui-là qui prenait la hype, mais pendant que t'étais dans le festival, tout le monde s'en fout. Je pense que c'est difficile de démarquer des tendances, encore plus, du coup, quand on est au-delà des festivals. En effet, quand on est ici, parce que nous, on est, c'est ce qu'on disait, mais en fait, on démarque des tendances en discutant avec les gens qui ne sont pas dans notre cercle de critique ou tout simplement notre cercle écran large. Quand je vois que ma chérie parfois elle regarde des séries, je lui dis mais pourquoi tu regardes cette série? C'est un peu le nouveau truc en ce moment, machin.
Je lui dis mais c'est de la merde. Mais tu regardes pas David Fincher avec moi.
C'est possible que je lui ai déjà dit ça. Mais surtout, je me dis je pensais pas que c'était un aussi gros phénomène, quoi. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on s'y intéresse. Et puis ça nous arrive en fonction aussi entre nous. Parce qu'on est dans une boîte avec beaucoup plus de, enfin on n'est pas que écran large.
Il y a des gens normaux, oui, dans l'entreprise.
Il y a des gens qui ont des vies perso. Et parfois ils nous parlent de séries, on a pourquoi cette série? C'est le phénomène un peu du moment où tout le monde plus ou moins parle, mais pas parce que forcément c'est bien, juste tout le monde la regarde, quoi. Ouais. Donc ce serait peut-être intéressant qu'on s'y intéresse.
Ils souvent échappent d'ailleurs aux plateformes, notamment Netflix, où des fois il y a des, un Squid Game, ils ont beau évidemment espérer que le truc cartonne, ils peuvent pas supposer à quel point ça va les dépasser. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, la surcharge informationnelle liée au cinéma, elle émerge aussi avec les nouveaux formats, je pense notamment à TikTok, qui amène régulièrement des explosions sur des films comme récemment Le Consentement ou des trucs comme ça, où en fait ça dépasse tellement le distributeur, enfin c'est pas une technique de com en fait.
Alors attention, plot twist, j'ai parlé à une pote attachée de presse qui m'a parlé d'une agence de com qui a géré ce buzz sur TikTok.
Ah waouh,
excellent.
Apparemment on nous ment, ça n'est pas du tout spontané.
Oui, mais après que ça arrive à ce level-là, parce que ça a fait quand même
qu'ils ont allumé la mèche, quoi.
Ça
mais
exploser.
Moi, je pensais que c'était spontanément des gens, tu vois. Je me disais, c'est trop marrant. En fait, c'est mis spontanément des gens.
Peut-être
quoi.
Que quelqu'un d'une agence de com a créé le mouvement, qui ensuite s'est fait plus ou
peut-être
moins seul.
Peut-être qu'ils font comme les RP de jeux vidéo sur Twitch ou en top tendance Twitch. Tu payes des gens pour jouer à un jeu, pour que ça lance un truc, et après éventuellement, ça prend et les gens jouent gratos. Donc peut-être qu'ils ont payé des influenceurs, influenceuses pour le consentement. Je ne sais pas. En tout cas, je vous le dis, entre nous, dans le cadre de cette réunion intime, ce truc est arrivé. Et quand elle m'a dit ça, je me fais intéressant.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça a été un vrai phénomène, en vrai, pour que parce que d'habitude on voit des films stagner, enfin pas perdre trop de fréquentation.
Oui,
mais que là, ça augmente
ça,
à plus de 30%, voire 50%.
Un média qui est pas forcément lié au cinéma ou à la critique de cinéma, ou du moins une forme liée à la critique, et que soudainement bah il y a un nouveau langage qui émerge aussi de là en fait. Et là pour le coup bah faut même admettre qu'on est actuellement plus ou moins largué. Je pense que tout le monde dans le milieu est un peu largué. Ça mérite d'ailleurs qu'on s'y intéresse.
Particulièrement nous peut-être.
Non mais c'est marrant parce que beaucoup en parlent tu vois mais sans trop comprendre et en disant justement il va falloir y réfléchir. Mais il va falloir y réfléchir peut-être vite.
Tant qu'on y réfléchit ce sera déjà passé à autre chose. Donc.
Mais est-ce que du coup c'est pas aussi d'ailleurs un autre problème parce que nous avoir le nez dans le guidon, la tête dans le guidon pardon, tout le temps. Il y a quand même, moi j'ai l'impression aussi, de la part notamment des très gros, enfin des événements, des phénomènes comme on en parlait, un surplus d'infos, de communication, justement par rapport aux petits films qui ont eux pas l'opportunité trop de prendre de l'espace. Ouais. Quand on a un Marvel ou un autre film comme ça et où on a trois bandes annonces, on a des déclarations en permanence, Empire qui sort une couve ou des trucs comme ça. Est-ce que d'ailleurs à force il y a encore de la place aussi, moi j'ai l'impression est-ce qu'il y a encore de la place pour la surprise? Moi c'est peut-être le truc qui me
pose
un peu problème.
Ça dépend
là-dessus.
Du créneau sur lequel on parle parce qu'il y a le côté actu. Si je parle pour écran large et comment nous on aborde l'actu qui est un peu la manière classique de l'aborder, c'est qu'il y a la partie actu, la partie réflexion critique. La partie actu c'est 99% de blockbusters et de passe-plat des studios où on fait oh, nana, ils parlent beaucoup et les studios disent bah arrêtez d'en parler et le public dit pareil en fait bah oui ben on aimerait mais c'est compliqué et puis c'est quand même intéressant, nous on saute nous-mêmes sur les bandes annonces parce que ça nous intéresse, il y a plein de trucs qui nous intéressent sincèrement, ah, et des trucs après on se dit bon là vraiment il y a rien qui est dit, on fait les news et parfois on le regrette et parfois les gens s'en foutent et parfois les gens gueulent, on dit bah celle d'hier était tout aussi pourrie, pourquoi ça vous a pas énervé. Donc il y a un truc un petit peu magique qui nous échappe, mais à côté de ça les surprises c'est plutôt du côté critique et dossier où là on revient à l'équilibre. Est-ce qu'on a suffisamment d'espace? Et ça repose sur des coups de chance, des coups d'envie. Quelqu'un qui est en festival voit un film, quelqu'un qui suit un auteur, cette actrice, putain, elle fait un film, le pitch a l'air trop cool. Malheureusement, cette part est réduite. Mais sur la partie actu, je pense qu'il y a peu de place pour la surprise, voire très très peu. Et sur la partie critique, bah, on se bat pour qu'il y ait toujours une part de surprise.
Oui, et des fois on a cette belle surprise. Enfin, je pense justement à des... Bah, tu parlais du règne animal, mais en l'occurrence, le règne animal, dès qu'on en a parlé à Cannes, ça avait vraiment bien marché et je me souviens que la critique dans la foulée avait plutôt bien pris aussi. Donc,
mais exceptionnel d'un film comme ça qui fait 1 million d'entrées en France. Voilà, ça n'arrive pas tous les ans. Donc à la hauteur de ce succès populaire, les trucs qu'on a fait dessus ont bien marché et les gens étaient intéressés par le film effectivement. Mais moi je me souviens que il y a des années, quand on parle de petits films comme ça surprise sur lesquels on tombe un peu par hasard, j'ai toujours deux exemples. C'est The Strange Ones qui est sorti en 2018 et Knives and Skin qui est sorti en 2019, juste après. Et je me souviens qu'à chaque fois, les trucs sortaient de nulle part et j'ai dû tomber dessus, comme parfois je le fais, tu regardes sur l'agenda d'Allociné ou ailleurs, tu regardes tous les trucs qui arrivent dans les 3 prochains mois en te disant oh, « Vas-y, je m'excite, j'aurai du temps pour tous les voir. » Et en tombant sur le pitch et en voyant que ça sortait de nulle part, la bande-annonce, les images, je me suis dit « Ça a l'air vraiment bien. » Des trucs un peu de genre, des films indés, des premiers ou deuxièmes films, un truc qui m'intrigue. J'ai adoré les deux films et j'étais trop content qu'on soit partenaire de Strange Ones à l'époque. Mais le hasard total, ou le destin peut-être, mais toujours est-il que j'avais pas prévu de les voir. Je suis allé en projection en me disant « why not ?» et j'ai adoré. Mais ça, en fait, est-ce que si on avait 3 fois plus de temps, on aurait 3 fois plus de surprises? Est-ce que ça reste pas un peu précieux parce que c'est un peu rare et que ça, il y a un facteur un peu chance, un peu coup de cœur, c'est le bon moment dans notre vie, le bon moment dans la vie du site. Voilà, ça fait un peu partie de la magie. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut pas abandonner ça. Il faut toujours garder dans un coin de notre tête qu'on est là pour décortiquer l'actualité, mais aussi pour dénicher les trucs comme ça. Et c'est là que c'est intéressant qu'on soit 6 complémentaires dans l'équipe.
Et en plus, on a, comme tu le dis d'ailleurs, cette complémentarité joue aussi sur la différence de goût qu'on a tous. Et moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que on en parlait quand on a fait les réunions, notamment du top et flop de fin d'année, où on a vraiment tous sorti notre top 15, qui était pour beaucoup assez varié. Et pour autant, ça n'a pas été si compliqué d'avoir un top 10 global de la rédac avec quand même des grosses tendances qui se démarquaient. Et même si on a quelques films assez rares dans le lot, je pense notamment à Mad God, globalement on avait Oppenheimer, on avait Anatomie d'une chute, on avait Killers of the Flower Moon, on avait j'ai dit Oppenheimer Spider-Man Across the Spider-Verse évidemment. Ouais. Donc on avait quand même des films qui au final d'ailleurs se sont retrouvés un peu dans les tops de tout le monde plus ou moins. Mmh. Et ça m'amène un peu à cette question là, est-ce que finalement il y a encore il y a une diversité telle aujourd'hui de films et de séries, et pourtant c'est vrai que quand on regarde les médias à la fin de l'année, tout le monde est plus ou moins à citer les mêmes films en fait.
Ouais, je sais pas si c'est le problème de les critiques regardent tous les mêmes films, parlent des mêmes films, encensent les mêmes films, en effet boule de neige du coup quelqu'un mais je verrai toujours vos visages du coup il est dans les tops de tout le monde, donc en fait c'est plus du tout une surprise, ou si c'est qu'au fond tu peux résumer une année de cinéma avec une trentaine de films qui sont vraiment marquants. Je sais pas lequel est le plus triste d'ailleurs dans les deux, hein, mais je sais pas lequel est vrai, je sais pas lequel est triste. Ouais,
tu vois,
mais...
j'aurais tendance à trouver un équilibre là-dedans, c'est que oui, peut-être qu'il y a un manque de surprise, et si tu enlèves peut-être allez, le top des cahiers et de quelques autres médias qui ont vraiment des films beaucoup plus particuliers. En même temps, je me dis, la critique a aussi pour moi ce rôle-là de faire un peu pas pilier, parce que d'un côté, tu pourras toujours remettre en cause, tu vois, d'ailleurs, certains s'en amusent de dire, à telle époque, les gens n'avaient pas compris Star Wars ou Retour vers le futur ou des trucs comme ça, tu vois, c'est toujours le truc simple à ressortir de la critique, c'était planté, ça arrive. Mais ça crée une tendance quand même. À l'époque, les gens ont pensé ça, tel film en fait. Et à l'époque, c'est ça qui a permis à tel film de marcher ou pas. Et je me dis, c'est aussi quand même un peu notre rôle d'accompagner une forme de tendance qui d'ailleurs peut être contre parfois l'avis du public qui a fait cartonner un film que la critique n'a pas trop aimé, ou à l'inverse d'accompagner un succès qui est devenu populaire soudainement. Et moi, je trouve qu'il y a une forme de beauté là-dedans, parce que ça rappelle aussi que ça, pour moi, c'est un peu à sa concert. Mais je peux comprendre que derrière, il y a aussi le truc de se dire tout le monde, enfin, il y a quand même une uniformisation derrière de.
Ouais,
de
tu vois, c'est vraiment en plus un truc que je jette pas la pierre aux autres, parce que je me regarde moi et je me dis, mais du coup, enfin, nous, pourquoi il n'y a pas plus de films qui sortent du lot? Parce que si tu comptes le nombre de sorties par semaine, plus ce qu'on voit en SVOD, ça fait énormément. J'ose même pas compter combien ça fait sur l'année. Alors, encore une fois, on ne voit pas tout, donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Mais même quand j'ai commencé à regarder en me disant, OK, je suis nul, on est au mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai raté de bien cette année? Du coup, tu regardes un peu à droite à gauche, avec que les films qui sont sortis en France, évidemment. Et, finalement, il n'y a pas 50 films sur ma liste que j'ai pas le temps d'attraper. Il y en a plusieurs. Mais c'est pas comme si je me disais, j'étais à la moitié de la montagne, je fais avec. Et je sais pas si c'est normal en fait. Là, avant, je me suis dit, peut-être qu'on fait n'importe quoi, peut-être que tout le monde, encore une fois, a des œillères et qu'on réfléchit pas assez hors de nous-mêmes. Mais je me suis posé la question sincèrement de comment on peut faire pour changer ça. Est-ce qu'il faut pas le changer de manière artificielle, mais est-ce que c'est normal en fait, ou est-ce que c'est inquiétant?
Mais je sais pas. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est inquiétant? Je sais pas. Mais moi, je suis un peu comme toi. Quand je me suis fait les rattrapages pour les films que j'avais pas eu le temps de voir durant l'année pour potentiellement les mettre dans mon top.
Tu veux dire quand t'as commencé en mars, c'est ça?
moi j'aime beaucoup classer les films. J'aime beaucoup dégager des tendances, ou en tout cas essayer de dégager des tendances. Donc
presque dans ton petit cœur pour commencer. Oui.
Oui, bien sûr. Oui. Mais de fait, c'est vrai que. Enfin, moi aussi, je trouve ça assez triste quand on a à peu près tous les mêmes tops, et en même temps, je suis assez content de voir que les films que j'ai aimés sont finalement ceux qui sont les plus cités, parce que je me dis que finalement, peut-être que j'ai pas des goûts de merde, tu vois.
Je suis content parce que le Scorsese est arrivé premier, donc à partir de là, tout va bien.
non, mais tu vois, je trouve c'est. Enfin, quand parfois je me fais la réflexion de ouais, c'est quand même marrant que cette année il y en ait vraiment que on a fait des top 15, mais il y en avait en vérité j'aurais pu faire un top 30 de films que j'ai bien aimé, voire plus, mais de films que j'ai vraiment 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 aimé, ça aurait été quoi, un top 5 quoi.
Ah, donc, d'accord. Chaque fois je me sens bizarre quand je dis ça, mais non, pour moi non. Chaque année il y a une poignée de films vraiment absolument sensationnels.
En vérité, cette année il y a 5 films que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, et après les autres je les ai, enfin, que je pense resteront. Oui. En fait, c'est plus que ce que je n'ai aimé, c'est des films que je pense resteront, voire oui. Qu'il y en a, à mon avis, que 2-3 qui resteront de l'année 2023. Pour, dans 50 ans, on dira encore, ah putain, tu te souviens ce film, machin et tout. Mais du coup, parfois, je me fais la réflexion de, tiens, je vais aller voir ce qui ressortait des tops de l'année, je sais pas, 1976. Et en fait, en vérité, tu vois qu'il y a une cinquantaine de films qui ressortent et tu te dis, ouah, c'est fou quand même qu'il y ait autant de films. Et en même temps, ça fait 60 ans, 50 ans.
C'est l'histoire aussi qui a permis, de réhabiliter certaines œuvres entre temps qui avaient peut-être été délaissées à l'époque.
Il y a des films surtout qui se, tu vois, c'est pour reprendre l'exemple le plus connu, mais dans les années, fin des années 90, Fight Club s'est conspué au moment de la sortie. Mais au final, 25 ans après, tout le monde en parle. Tout le monde dit Fight Club, c'est un film culte qui, c'est un immanquable d'une forme, d'une certaine manière, d'une cinéphilie, quoi. Pas forcément, t'es pas obligé de l'aimer ou de le détester, mais.
Mais si t'es un bonhomme, tu aimes.
Non.
t'es un incel, t'adores, quoi.
Mais au final, il y a des films qui, c'est pour ça, ça me fait rire, parce que ça me fait penser au fait qu'on note on note les films sur écran large sur 5, mais qu'on ne met jamais de 5 sur 5. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de quand on note un film, le 5 sur 5, pour moi, c'est de facto, c'est la perfection, hein, puisque c'est la note parfaite. Mais la perfection se joue énormément pour moi. Je mets jamais de 5 sur 5 au-delà d'écran large sur les sites où je répertorie mes visionnages, parce que ça se joue énormément sur le temps. C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, j'aurai le même ressenti sur ce film? Est-ce que j'y pense encore 10 ans après, comme si c'était la première fois que je le découvrais, etc.? Et finalement, c'est très, très, très rare. Je dis pas qu'il y a des pas des grands films, il y en a beaucoup des grands films, mais est-ce qu'il y a des films qui dans j'ai pas une ciné, je suis pas assez âgé pour me dire tiens, ce film que j'ai vu il y a 30 ans, est-ce que je l'aime encore? Mais j'aimerais bien savoir si dans 25 ans, est-ce que ce film en fait que j'avais adoré à l'époque de sa sortie, je l'adore toujours. Parfois non, tu vois, genre 1917, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, ça fait 3-4 ans, mais quand j'y repense, je me dis finalement pas tant que quand...
raison, c'est bof.
C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais tu vois, mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des films qu'on note sur le coup et qu'on les adore, etc. Et puis quand on y réfléchit, on les aime moins, et d'autres qu'on sous-note et qui finalement nous reviennent et on se dit mais tu vois tu vas dire j'ai encore raison machin, mais
vas-y j'écoute.
Non mais je suis pas du tout fan de Mother, mais c'est un film qui pour moi dans 20 ans on en parlera encore, parce que c'est un film
pour dire que c'est nul. Oui.
Oh, retourne voir Transformers.
Non mais pas forcément pour dire que c'est bien, mais dans tous les cas on en reparlera, et c'est pour moi presque plus important que ce qu'un film soit bien ou non, c'est qu'en fait ça a forgé sans doute chez certaines personnes un amour du cinéma ou un amour de ce réalisateur ou un amour
une haine du cinéma
non mais potentiellement c'est vrai, mais ça a créé quelque chose.
Oui, il y a une réaction très fait.
Et c'est pas forcé que ce soit l'un des meilleurs films des années 2010. Vraiment pas, pour le coup. Pour moi, en tout cas. Mais c'est un film qui restera, à mon avis, dans 20 ans. On en parlera encore pour dire, putain, mais tu te souviens du phénomène Mother? Pas dans le sens phénomène commercial, hein, mais phénomène, ça avait
passé
divisé,
un truc, quoi.
Il s'était passé quelque chose vis-à-vis de ce film. Et c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que, du coup, ça vous semble peut-être plus difficile maintenant? Parce que tu parlais en plus du passé et de comment on perçoit des films, évidemment, avec le temps aussi. Mais est-ce que, du coup, avec cette surabondance, s'il y en a une, d'ailleurs, est-ce que pour vous, ça vous paraît plus difficile, justement, aussi de capter un peu ce pouls, en fait, de quels films vont rester ou pas?
C'était la réflexion que j'allais avoir. C'est est-ce que, si on admet mathématiquement qu'il y a plus de films, de contenu, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de grands films dedans ou pas?
C'est ça,
parce que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de films, est-ce qu'ils sont tous faits par des canaux qui visent potentiellement cette postérité cinéphile? Est-ce qu'il y a juste du remplissage sur plein de trucs? Et encore une fois, on blâme pas des catalogues, des marques ou des studios. C'est juste, est-ce que cet appel d'air qui a été créé fait qu'il y a plus de chances d'avoir des grands films? Alors, j'ai pas la réponse, parce que je sais que, par exemple, un des films qui m'a le plus marqué il y a 2 ans, c'était Causeway avec Jennifer Lawrence, que tu m'as conseillé, Alexandre, et que j'ai tellement aimé qu'encore aujourd'hui, j'y repense, alors que c'est un petit film Apple. Qui est passé plus ou moins inaperçu, peut-être qu'elle a été récompensée ou nommée. Non, c'est
non,
lui, non,
pas,
je crois qu'il a été nommé dans des catégories.
Ouais, lui, il avait été nommé.
Il a un petit peu attiré l'attention, mais ce film, qui est un petit film, entre guillemets, m'a beaucoup marqué. Alors pourtant, tu dis, sur un catalogue de Apple, est-ce qu'ils avaient vraiment vocation à faire un film? Est-ce que c'était pas du remplissage pour productrice Jennifer Lawrence et tout ça? Donc j'ai pas la réponse pour dire que c'est oui ou non, mais effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait proportionnellement plus de grands films, parce qu'il y a beaucoup plus de trucs qui sortent chaque semaine ou chaque mois en SVOD au cinéma.
Franchement, personnellement, je pense pas qu'il y ait plus... Enfin, la quantité ne fait pas plus de qualité, à mon avis. Plus de quantité ne fait pas forcément plus de qualité. Mais c'est difficile, c'est impossible de répondre, en fait. C'est comme essayer de prédire l'avenir. C'est strictement impossible de savoir à quel point un film va rester dans le temps. Il y a parfois une sensation, quand je vois certains films, quand j'ai vu Killers of Flower Moon, je me suis dit que vraiment ça changeait la donne, parce que ça arrivait à un instant T d'une forme de cinéma actuel qui est très dans l'envie de tout le temps être ultra rythmé, etc. Et de voir un film qui revient à une forme de cinéma qu'on ne fait plus du tout, à une époque où il n'est quasiment plus le bienvenu vis-à-vis des spectateurs, parce que c'est trop lent, c'est trop dans l'attente, etc. Ça vient en fait déclencher autre chose. Et quand t'as des films comme La Zone d'intérêt aussi, pour moi, je trouve que c'est, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je suis sûr que dans, peu importe si les gens l'aiment ou pas, mais ce film, il va marquer d'une certaine manière l'empreinte de son époque, quoi.
Oui, c'est ça.
Et c'est intéressant parce que régulièrement sur le site on nous dit qu'on est anti-Netflix, parce que des fois on n'aime pas les films Netflix, et quand tu regardes les tops ou les meilleurs films de écran large depuis des années, il y a régulièrement des trucs Netflix dedans. Donc encore une fois, quand je dis il y a plus de films, plus de contenu, du coup il n'y a pas forcément plus de grands films, c'est même pas une problématique de c'est la faute de la SVOD, c'est la faute des studios, c'est la faute de tel pays et sa chronologie des médias ou je ne sais quoi. C'est qu'en fait globalement il y a de plus en plus de billes de tous les côtés, donc tout le monde fait plus de bien, mais peut-être plus de pire encore, parce qu'il y a une espèce de bordel un peu généralisé dans la cour de comment tu captes l'attention des gens. En fait, on dit il y a trop de films, trop de trucs à couvrir pour nous, mais en fait, il y a peut-être aussi trop de films et trop de choses à voir pour les gens. Du coup, comment tu fais pour attirer leur attention de loin, quoi?
Et c'est pour ça que finalement, après qu'on aime ou pas les films, mais moi, je trouve ça rassurant, surtout en ce moment, que malgré certains films qu'on aimerait voir plus cartonnés ou dont on aimerait voir plus de communication, le fait qu'il y ait quand même des phénomènes justement qui des fois d'ailleurs créent la surprise, hein, évidemment, bon, en 2023 t'as Barbie, Oppenheimer, mais le fait qu'il y ait quand même des films qui arrivent à rassembler, qu'ils étaient attendus ou pas, me rassure moi un tout petit peu là-dessus, où je sens qu'effectivement peut-être qu'il y a cette espèce de chape de plomb de, voilà, de cette surcharge de films, de séries, mais les gens arrivent quand même à un moment donné à se retrouver avec un Stranger Things, à se retrouver avec voilà, un Spider-Man, à se retrouver avec même des petites surprises, voilà, comme un Oppenheimer, que bon, il y a Nolan certes, mais est-ce que un biopic de 3 heures avait matière à cartonner autant, et ça, moi ça me rassure un tout petit peu face à cette tension généralisée.
Et moi ce qui me rassure sur le négatif, ce que je préfère, c'est quand les gens rejettent les films qui sont censés être des succès.
Oui.
Tu vois, les non succès, non cartons de Fast and Furious et Mission Impossible, c'est intéressant de te dire, a priori c'était gagné d'avance, et en fait les gens ont toujours le libre arbitre de se dire, en fait j'ai pas envie d'y aller, en fait j'en ai marre, c'est le 8e film, ça me casse les couilles, ou en fait je l'ai vu, je le conseille à personne parce que vraiment c'était pas la hauteur. Donc en fait chaque année aussi il y a une remise en danger pour les studios de se dire, rien n'est acquis, et tant mieux, et c'est pas la faute des médias qui en parlent pas, c'est pas grâce à ta promo que les films vont y aller, c'est un peu grâce à ça, mais c'est surtout parce que les gens vont décider ou pas de continuer à le voir et d'en faire un succès. Et ça c'est vachement excitant de te dire, c'est les gens qui ont le pouvoir quand même.
Bah voilà, avec tout ça, j'ai bien envie d'imposer le nouveau terme de surcharge médiatique. Je vais le copyrighter et on pourra en faire un motif de congé maladie. En tout cas, c'était très intéressant de décanter ces questions avec vous. Bah, c'est juste dommage que, comme d'hab, on n'en tire pas de podcast de ce genre de réel, alors que c'est super intéressant. Faudrait vraiment qu'Écran Large se décide à sauter le pas. Ça ferait justement un canal supplémentaire pour des recos cinéma. Mais bon, pour ça, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Oui!